Du côté de l'Estac, si on observe attentivement les bords de route, les murs, les talus, on voit des tuiles. Des bouts de tuiles sous nos pieds, des tas de tuiles empilées, des millefeuilles de tuiles qui constituent encore aujourd'hui le paysage bâti de ces quartiers au nord de Marseille, également nommé le bassin de Séon. Du côté de l'Estac, il y a une école. On ne sait pas trop si elle s'appelle Fenouille ou Estac-Gare. Les deux sans doute. Une école primaire qui, depuis des années, explore, enquête, marche, produit des récits et des représentations passionnantes autour du patrimoine de son quartier. En 2013, les enfants sont partis sur les traces des Tuileries, qui les ont amenés jusqu'au J1, où ils ont pu présenter en juin dernier une exposition de leurs recherches et de leurs créations. Petite histoire singulière d'une école qui a choisi de ne pas se renfermer sur elle-même et de travailler ses projets pédagogiques à l'échelle de son quartier.
Sérieux, allez, vous m'expliquez ce que
en fait, c'est une vue de Saint-André. Saint-André. C'est une vue de Saint-André, d'une tuilerie.
C'est parce qu'on avait travaillé sur des tuileries.
C'était vraiment notre gros projet. On a vraiment
participé. J'ai mis mon cœur à
On a vraiment participé dessus.
Notre cœur, notre âme à faire tout ça. En fait, depuis le début de l'année, on travaille sur des tuileries de Marseille. Comment ça s'est formé? Pourquoi?
Ben en fait, le tome des sirènes, c'est, on l'a appelé comme ça parce que ça parle des Tuileries, du tome des Tuileries. C'était vers 1900. Le tome des sirènes parce que c'est pas une sirène. C'est une sirène pour les ouvriers quand ils travaillaient. Il y avait comme c'est une cloche la sirène et pendant la journée ça sonnait quand ils pouvaient manger et quand c'était fini. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça.
L'idée, c'est de les mettre dans la situation d'être les historiens de leur quartier, de manière à ce qu'ils produisent eux-mêmes l'histoire et qu'ils ne soient pas simplement le consommateur de l'histoire qu'on leur donne à apprendre à l'école, et de façon à les mobiliser intellectuellement sur une bonne partie de l'année, sur des enjeux de connaissances historiques essentiellement. J'ai développé un peu cette approche depuis 6 années en faisant alternativement des projets sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire des usines, l'histoire du chemin de fer. Donc c'est un territoire qui se prête énormément à ce genre d'enquête puisque ça a été un quartier industriel pendant très longtemps. Un quartier ouvrier, un quartier d'immigration, de forte immigration sur plusieurs générations, plusieurs sources de migrants. Depuis l'Italie, l'Espagne, l'Arménie, l'Algérie, bien sûr, la Tunisie. Et tous ces gens-là, une bonne partie de ces gens-là est restée. Et ce sont devenus des estaquiens.
On est à l'Estac-Gare, notre instituteur s'appelle Jacques Vial.
Lorsque j'entends dire par des gens avec un aplomb surprenant que la lumière vient du nord, comme 15 sort, soit un enfant du midi, soit sur moi, je me dis. Non mais de quoi, qu'est-ce qu'il croit? Chez nous autres aussi, on y voit, aussitôt relevant cet affront. Sous sur le même ton, je le réponds. Dans mon pays, le gai soleil qui resplendit, oui, a vu naître des hommes vaillants. Pierre Alfonso de Mistral et Rostand, dans mon pays.
On s'est baladé vers les rues de l'Estac, les quartiers de l'Estac.
Saint-Henri aussi.
À côté de l'école, par exemple, il y a deux piliers, ça peut.
Il y avait plusieurs usines. Pour se différencier pour l'argent, ben, il fallait mettre des logos comme le lion, le papillon.
Alors qu'est-ce qu'on va faire ?
On va partir sous la gare. En fait, on va descendre sous la gare, parce que la gare elle est fermée là. Et on va longer au-dessus du collège et redescendre par une petite traverse et aller sur un jardin public qui domine à peu près toute la baie de la Somatie. Là. Moi j'avais repéré des points de vue sur des photos anciennes. En fait, des photos qui dataient du début du siècle. Et j'ai tiré des photos du même point de vue. Et après, on a créé un petit jeu, en fait, avec les enfants. Moi, j'ai photographié pas mal de petites choses, aussi des détails d'architecture sur un parcours. Et cinq endroits où il y avait vraiment un point de vue particulier avec une photo ancienne et une photo récente. C'était pour regarder un peu l'évolution du paysage, quoi. Donc là, on avait un point de vue qui était à la gare en haut, qui était au-dessus sur le chemin de fer, avec une tuilerie qui appartenait à Bovis, quoi, derrière. Et donc là, on va pas passer exactement pareil parce que le portail est fermé. Alors que normalement, il est semi-ouvert, mais en été, ils ont dû le fermer. Après, sur chaque photo, on pouvait parler soit l'histoire, soit l'évolution de l'architecture, soit l'évolution aussi du quartier, quoi. Alors là, on discerne... on est juste au-dessus du collège. On a une vue sur la mer, Château d'If et Frioul en face. Et on voit tout l'ancien creux en fait, d'argile qu'il y avait à la place du collège, du centre social et de la zone industrielle. Quoi. C'était un ancien creux d'argile qui alimentait les tuileries qui étaient à la place du collège. Ben, il y avait un côté très ludique. Moi, ce que je à travers cette recherche là, et ce jeu, c'est de pouvoir intéresser les enfants sans qu'ils s'en aperçoivent réellement, quoi. Donc ils étaient vraiment dans une recherche de petits détails, de points de vue de photo. Et donc ils étaient vraiment l'œil aiguisé, un regard neuf sur ce qu'ils voyaient quotidiennement. Et tout d'un coup, ils avaient une révélation aussi, ou pas, suivant, parce que c'est soit des architectures, soit ça pouvait être des tags aussi. Parce que c'était le patrimoine, en fait, pour moi, il appartient juste à hier, quoi. Donc ça pouvait être du patrimoine très récent et du patrimoine très ancien. Et après, c'est aussi discerner le patrimoine récent et le patrimoine ancien, quoi. Et aussi, après de là, de ce détail-là, partir sur une histoire. Si on voyait deux murs en briques, eh ben, ça pouvait être une propriété ou une usine, ou aussi la brique elle-même qui appartenait à la tuilerie. Et si on partait comme ça sur l'histoire, quoi. Ça, en fait, c'est une espèce de pelote de laine qu'on démêle et à chaque fois, on va chercher un peu plus loin, quoi. Mais c'est eux qui découvrent. C'est pas nous qui montrons c'est là, c'est là, c'est là. Donc eux, ils découvrent, donc ils sont acteurs principaux de cette promenade, quoi.
Lucien Vassal, il était enfant quand il y a eu les Tuileries et il jouait près du creux du pilote. Ouais, voilà, une carrière, à peu près. Creux du pilote, carrière du pilote. Il nous a raconté ce qu'il a fait, ses, entre guillemets, on va t'en dire, aventures. Et moi, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est que c'était marrant, ses aventures.
Alors là, c'est une petite traverse, on est descendu, on est proche de l'Alhambra. Et il y a une petite traverse qui rejoint deux routes. Donc c'est une petite aparté en fait du village. Et il y a des ruines aussi, des maisons qui sont toutes en briques. Les tuiles rondes, pas de tuiles plates. Et il y a un passif ici qu'on voit très fort de ces maisons qui sont à moitié en ruine. Et on avait aussi ramassé, parce que tout au long de la balade, on a ramassé des fruits aussi. Des fruits à moitié sauvages. À moitié sauvages, je dis là par exemple, ici il y a une vigne et il y avait un raisin qui était fabuleux. Donc ça a été aussi, dans la balade, ça a été aussi regarder les plantes et ramasser les murs, ramasser les raisins qu'il y avait. Donc aussi être présent sur la culture aussi, si c'est pas sauvage, si ça a été cultivé, et de pouvoir goûter aussi, quoi, d'avoir des sensations autres que visuelles, quoi. Donc là, on passe juste à côté de cette petite vigne où on a ramassé les raisins. Il y a du sureau aussi, et on va descendre un peu plus bas pour rejoindre le Régali. Le Régali qui est une espèce de promontoire au-dessus de la Somatie, quoi. Et on va peut-être aller voir au-dessus, on verra l'endroit où on a fait les fouilles, quoi. Mais c'est un endroit que si on ne connaît pas, on passe pas, quoi. Donc c'est vraiment un petit secret, quoi.
Il y avait le four Hoffman et le four tunnel. À l'intérieur, il faisait 1000 degrés, ça faisait monter jusqu'à 1000. Et les gens avec c'était avec des carolines, et ils faisaient chauffer les tuiles, ils rentraient dedans. Mais...
Il y a des enjeux, bien sûr, en histoire, il y a toujours des enjeux qui sont pas seulement des enjeux de connaissance, qui sont des enjeux pour se situer soi-même par rapport à une histoire plus longue. Mais surtout, ce que j'essaye de faire en classe, c'est développer des approches rationnelles, tant en matière d'histoire qu'en matière de science, de manière à ce que ensuite les élèves puissent eux-mêmes établir des choix sur la base d'une analyse. Plutôt que de plaquer, disons, des notions morales qui peuvent être justes, hein, d'ailleurs, et de leur donner comme ça, sans qu'il y ait eu un travail d'analyse, je préfère, à la limite, ne pas traiter de questions qu'on appelle les questions chaudes maintenant dans l'enseignement, qui sont plutôt abordées au collège et au lycée, et plutôt les amener à construire des connaissances et à manipuler des savoirs, et ensuite être en mesure de faire leurs propres choix.
Bidonville un peu moins, mais pas beaucoup.
On a travaillé
très peu, parce qu'il y a le bidon. J'ai l'impression qu'il y a un petit bidonville à l'Estac Rio. Je trouve que ça ressemble à un bidonville, donc c'est ça. C'est comme un petit village dans une ville, fait avec des... Le mot donc ville, ça veut dire que c'est dans la ville. Et bidon, c'est fait avec des débris, ça fait avec des objets recyclés, va-t-on dire, si on peut dire comme ça. Voilà.
Il y a le bidonville de la Lourette, il y a plusieurs bidonvilles. Et en fait, ceux qui habitaient dans les bidonvilles, c'était les immigrés qui venaient d'Algérie ou des pays africains, aussi d'Afrique du Nord, d'Italie du Nord. Il y avait les célibataires, surtout des célibataires dans les immigrés. Après, il y avait les ouvriers qui prenaient des tuiles cassées des usines où ils travaillaient pour construire des bidonvilles. Mais en fait, ce qui se disait dans les ouvriers, ils se disaient que en fait ils construisaient une maison, mais la maison ils l'agrandissaient pas, ils cherchaient pas à l'améliorer, puisque en fait ils se disaient qu'ils allaient repartir très vite pour ça.
C'est marrant, une fois qu'on est à recherche de tuiles, on voit que même les sols sont remplis de tuiles. Si on trouve un petit chemin qui n'est pas goudronné, il y a des morceaux de tuiles partout. Là, on voit des tuiles plates, on voit de la briquette, on voit aussi des murs en tuiles plates. On voit de la briquette réfractaire aussi, qui était servie au four, quoi. Et c'est vrai que partout, la tuilerie sont présentes, mais en l'air comme en bas. Bon, là, c'est pas goudronné, c'est... bétonné, mais dès qu'on atteint des chemins de terre, c'est rempli de petits morceaux de tuiles, quoi. Il n'y a pas de tuilerie, mais toute la présence, elle est très très forte ici, ouais. Petits grains qui sont peut-être mûrs, je ne sais pas. Non, ils sont encore un peu acides. On est en train d'arriver sur le promontoire qui est au-dessus du port de la Somatie, et on traverse une petite ruelle pleine de petites maisons d'ouvriers. Donc c'est des alignements assez réguliers de maisons qui vont arriver jusqu'au port de la Somatie. Et on va arriver à la zone de fouille qu'on a effectuée avec les enfants. C'est un des seuls restants d'usines de tuileries où on voit encore quelques murets. On va y arriver doucement là en descendant. On va surplomber ce site-là, quoi. Au-dessus de la zone de fouille qu'on a réalisée avec les enfants sur l'usine Regali, donc c'est juste en dessous de Mauropiane. Et il y a un projet immobilier là qui est en train de se réaliser. Donc tout ça, ça va disparaître. Et bien alors dans la fouille, on recherchait des estampilles, c'est-à-dire que chaque entreprise, bon, au début c'est très artisanal, c'est-à-dire qu'il y avait quelques petites entreprises sur les stacks, bassin de Séon, c'était des petites des familles quoi. Donc ils avaient chacun un logo qui correspondait à leur marque de fabrique quoi. Et au fur et à mesure que l'industrie est arrivée, l'automatisme et tout ça qui est arrivé, les familles se sont mariées entre elles, on a gardé le logo. Et là, on recherchait en fait des logos pour déterminer à qui appartenait l'entreprise. À qui appartient l'entreprise et chercher au niveau de la cartographie où se situaient les entreprises. Quoi. Et avec toute l'évolution de l'artisanat jusqu'à l'industrie. Quoi. Donc de familles qui se sont mariées, qui ont recréé jusqu'à 1960-1950, où il y a eu une grosse entreprise, les sociétés Tuileries de Marseille, quoi, qui ont regroupé toutes les Tuileries. Quoi. Mais ça s'est évolué, ça a évolué au fur et à mesure. Quoi, ça.
La démarche d'enquête, on peut la mener soi-même en tant qu'enseignant. Il faut quand même qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent témoigner. Et j'ai eu la grande chance de travailler avec Antonella Fiori, qui, bien des années plus tôt, avait déjà commencé à rassembler des témoins sur l'histoire des usines à l'Estac. Et j'ai pu profiter de son réseau de témoins et bien sûr elle a été associée dès le début à ces projets. Et je me suis aperçu surtout qu'au niveau de la mise en forme des témoignages, c'était important d'avoir quelqu'un qui ait déjà cette habitude de travailler sur des biographies. Et du coup, même si je pouvais assumer une bonne partie du travail d'enquête, de restitution, c'était une alliée précieuse dans ce domaine. Ensuite, pour le côté vraiment artistique, on s'est aperçu assez tôt qu'une des façons de mettre en valeur la connaissance qui avait été construite, c'était de la réélaborer esthétiquement et symboliquement à travers des productions plastiques qui ont l'avantage aussi de pouvoir être montrées dans le cadre d'expositions ouvertes au public. Et c'est comme ça que petit à petit, on a fait connaître un peu nos travaux. Et qu'on a pu échanger aussi avec le public, rencontrer de nouveaux témoins et poursuivre le travail d'année en année comme ça. L'intérêt, il est à la fois au niveau de la connaissance, c'est une manière de symboliser la connaissance, de la rendre plus prégnante encore, en la réélaborant esthétiquement, et d'autre part, c'est une façon de communiquer aussi avec l'extérieur.
Alors tout ça, c'est un peu la base du travail artistique, c'est tout ce morceau de tuilerie et comment on va mettre en scène ces morceaux de tuiles. Par exemple, sur les estampilles, on a fait des espèces d'écrins sur l'estampille, un écrin fait en papier mâché qui était bleu. Juste, bon, on travaille sur du symbolisme, quoi. Et après, on a travaillé aussi sur la matière même de la tuile, qui est de la terre. Donc, on a travaillé sur des petits, une représentation de certaines usines. Et on a fait aussi des petites, c'est des petites boîtes avec un œilleton. Des dioramas en fait, où on a travaillé sur une photo d'archive et une représentation en 3D devant la photo d'archive, faite en argile aussi, avec des petits personnages. Donc là, on peut travailler sur, c'est pas du symbolisme, c'est une représentation même, mais ludique aussi à travers un œilleton, donc c'est le regard qu'on peut porter sur une histoire à travers un petit œilleton, quoi. Bon, c'est toujours lié, très très lié entre l'artistique et l'histoire. On travaille dans le symbolisme, mais aussi en représentation, et aussi essayer de... C'est tellement lié que j'ai vachement de mal à faire la distinction entre le patrimoine, quoi, entre la recherche et l'exécution d'un travail artistique. Il y a une liaison complète, quoi. Souvent, on prend l'histoire comme une chose qui est tellement évidente, quoi, une science, parce que c'est une science, mais c'est une science. Donc avec toute la part de connaissance et toute la part de l'inconnu aussi de cette science-là, parce que... On peut reconnaître certaines choses, et les historiens aussi découvrent certaines autres choses. Et puis il y a des discussions qui se font, il y a toujours des débats dans l'histoire. Donc même sur le passif, le passé, quoi, il y a autant de discussions que sur le présent et que sur l'avenir, quoi. Donc après, c'est de voir d'entrecouper aussi et d'avoir son propre point de vue, et que les enfants se formulent aussi au fur et à mesure des hypothèses. On trouve une estampille, par exemple. À quoi sert cette estampille? Et on ne va pas leur affirmer directement que l'estampille était fabriquée pour qu'il y ait une reconnaissance des artisans. On va leur laisser le chemin qu'ils vont faire pour pouvoir dire « Ah ben ça peut servir à ça ». Donc c'est chaque fois, on fait des recherches, on trouve quelque chose, on pose les choses à plat, on se demande pourquoi. Donc les enfants participent à tout ce processus de recherche. Et ben c'est très très proche, moi je dis, c'est très proche de l'art. Parce que l'art, on est toujours dans une instabilité. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver un cadre, d'essayer que ça soit le plus cadré possible et le plus équilibré possible, mais toujours avec un déséquilibre qui permet de rentrer dedans. C'est-à-dire que dans l'histoire, c'est pareil, dans tout ce qu'on fait, il faut affirmer certaines choses, mais qu'il y ait toujours une faille. Et cette faille, c'est pas qu'il y ait toujours, c'est une évidence que cette faille existe, quoi. Et de pouvoir rentrer dans cette faille-là, et on peut rentrer dans une œuvre d'art comme ça, on peut rentrer dans l'histoire comme ça, on peut rentrer dans toutes les sciences comme ça. Et c'est ce rapport-là qui m'intéresse beaucoup, c'est quelle est la faille, où elle est la faille, et comment on rentre dans la faille, quoi.
Marseille, le 16 juillet 2013. Chère Julie, tu me proposes d'écrire une lettre, et je veux bien me prêter à ce petit jeu, en ayant une pensée pour les enfants, pour Jacques et pour Jeff, avec qui je viens de partager 9 mois, le temps d'une gestation, puisque nous sommes partis sur les traces du passé enseveli des anciennes Tuileries de Saint-André et de Saint-Henri pour notre projet pédagogique, le temps des sirènes. Nous sommes d'abord allés fouiller la terre du côté du Régali. Les enfants, munis de petites pelles, déterraient des trésors où l'on pouvait apercevoir, gravés dans la terre cuite, fragments de mots et dessins représentant soit un papillon, soit un cœur, ou bien un phare, et même un cheval. C'est ainsi qu'ils ont découvert les estampilles de chaque tuilerie. Dans la cour de l'école, tels des petits anthropologues, ils ont brossé, lavé, nettoyé, et plus tard classé tous ces vestiges trouvés dans le sol de leur quartier. Lors de ces premières promenades, marcher sur les traces des anciennes Tuileries nous a permis d'entrer dans le vif du sujet et de pouvoir préparer les interviews. Pendant 3 mois, d'octobre à décembre 2012, les enfants allaient rencontrer 3 personnes qui avaient accepté de venir témoigner. 3 personnes avec des points de vue différents. Le premier, Lucien Vassal, né à la Viste, parlerait de ses souvenirs d'enfants et d'adolescents découvrant le monde ouvrier du Creux du Pilote et des Tuileries comme terrain de jeu. Le second, Michel Librini, fils du contremaître de la Tuilerie Barthélémy Fenouille et travaillant aujourd'hui dans la Tuilerie Monnier, viendrait parler du fonctionnement des fours et des différentes étapes dans la fabrication des briques et des malons. Le troisième, André Guessens, ingénieur à la Société Générale des Tuileries de Marseille, répondrait aux questions sur son poste d'ingénieur, sur l'histoire de la SGTM, sur le conseil d'administration, sur les bidonvilles où vivaient les ouvriers immigrés des différentes tuileries. Lors des interviews, ce sont les enfants qui posent les questions et mènent le débat. Bien sûr, nous avons tout préparé avant la rencontre. Nous nous sommes demandé quelles questions poser afin de pouvoir obtenir le maximum d'informations sur le sujet que nous étions en train de traiter. Nous avons vu comment rester centré sur le thème abordé, à qui on s'adresse. C'est important cet espace de la question pour les enfants. Apprendre à poser des questions, savoir les formuler, ne pas avoir peur de questionner. Il y a une gamine qui a écrit « Je me souviens de ne pas avoir eu honte de poser des questions. » Après les rencontres, les enfants écrivent des articles qui seront publiés dans le supplément du journal de l'école, Le Canard de l'Estac.
Now our next tune features the German, the African percussion instrument that we use.
L'Odyssée de Modo.
Ce matin-là, dans la banlieue de Dakar, le soleil fait briller les hautes herbes. La chaleur est déjà forte et très forte. Un oiseau perché sur un bananier fait entendre 3 notes à intervalles réguliers. Devant la maison en tôle du bidonville, le craquement des brindilles jetée au feu répond au dernier bruit de là. C'est l'heure où Modo prend le sentier et qu'il conduit vers la cabane des deux chèvres. Tous les jours, il va soutirer un peu de lait pour nourrir sa famille. Avec sa femme Shambhala et son fils Waku, ils vivent dans une case qui ressemble à une ruine. Ils sont pauvres, ils ne mangent pas tous les jours à leur faim.
Du mois de janvier au mois de mars 2013, nous nous sommes consacrés à l'écriture de l'Odyssée de Modo. Il y a toujours une étape d'écriture créative lorsque j'interviens sur les projets pédagogiques de la classe de CM2 de l'école de l'Estaquegard. Cela permet aux enfants de croiser plusieurs modes d'écriture et d'aborder la fiction à partir de toute la matière accumulée et traversée. Un travail d'écrivain, en somme. Les enfants ont imaginé un personnage, Modo. Ils ont parlé du Sénégal. Au fait, c'est où le Sénégal ? Nous avons consulté un globe terrestre. Voilà. Modo, il vivrait à Dakar, dans un bidonville, avec sa femme et son enfant.
En fait, c'est juste après, donc il n'y a pas trop à expliquer. Donc là, il va prendre la mer, sur le Mayflower. Je choisis ce nom parce que le bateau du... Christophe Roulin, je crois. Il s'installe sur le pont au milieu des autres passagers et regarde la côte africaine s'éloigner dans l'obscurité. Il a du mal à respirer. L'air est chaud et chargé d'odeurs épicées. Rien ne peut l'empêcher de penser à sa famille qu'il est en train de quitter. Mais il se dit que ce travail qui l'attend va changer sa vie et celle de ses proches. Au bout de quelques minutes, il reprend le rythme de sa respiration et, la tête entre les mains, il sanglote un peu.
L'Odyssée de Modo, j'en garde un souvenir assez intense, parce que je n'ai fait que jouer le chef d'orchestre. Les enfants étaient là, avec tout leur imaginaire et leur capacité créatrice insoupçonnée. Le livre est né comme par magie. Maintenant, il passe de main en main. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est un peu comme hommage à toutes celles et à tous ceux qui étaient simplement fiers d'appartenir à la classe ouvrière, de travailler dans une usine et de produire de la richesse en espérant qu'elle serait un jour répartie avec davantage de justice. Antonella Fiori.
D'un bateau qui a fait naufrage. Je suis venu à la nage.
Répond Modo.
Tu as de la chance de savoir nager. Sinon, tu allais finir entre les dents d'un requin.
Tu as vu ce collier ? Il me protège des naufrages. C'est ma femme qui me l'a offert.
C'est bien d'avoir une femme qui pense à toi. Mais où vas-tu ?
Je veux aller rejoindre mon frère à Marseille.
Que veux-tu faire là-bas ?
Travailler dans une tuilerie.
Comment comptes-tu t'y rendre ?
Je ne sais pas. J'ai tout perdu, mes papiers, mon argent, mes quelques vêtements.
Je peux t'aider, si tu veux.
Ne vous donnez pas tout ce mal pour moi, merci.
Je ne suis qu'un vieillard. Tiens, prends, c'est l'argent pour ton billet. Tu en as plus besoin que moi. Il y a une gare dans cette ville que tu vois au loin. Tu ouvriras un train, j'en suis sûr.
Merci, je vous revoudrai ça un jour. Je vous le promets, je reviendrai.
C'est lui.
Adieu et bon voyage.
Non, c'est lui.
Non, c'est toi.
Maintenant, il me dit adieu, bon voyage, parce que lui, il part.
Mais non, c'est lui qui part.
Voilà.
Et toi, tu dis adieu et bon voyage, parce que l'autre, il
dit. Ou alors, je peux dire adieu et lui, il me dit bon voyage. Bon voyage, adieu. Adieu. Adieu et. Salut. Et puis, adieu.
écouté un reportage de Julie Demeure sur le projet Le Temps des Sirènes, développé par l'école de l'Extac-Gare à Marseille. Réalisation et mixage, Tony Regnault. Vous pouvez retrouver le journal des enfants qui raconte l'enquête à la librairie L'Encre Bleue à l'Estac. Consultez le blog du projet www.tempsdessirenes.wordpress.com et allez voir l'exposition des enfants reprise à l'occasion des Journées européennes du patrimoine à la maison de la petite enfance de Mouropiane dans le 16e arrondissement. Le Temps des Sirènes est un projet coproduit par Marseille-Provence 2013 Capitale Européenne de la Culture avec le soutien de la DRAC PACA et de la DRJSCS PACA dans le cadre de l'appel à projet Identité, Parcours, Mémoire.